Bonsoir. La coalition des ONG de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle, appelle tous les acteurs de la société à exiger un moratoire sur le projet INGA 3. Le coordonnateur de cette structure explique que ce projet ne respecte pas les principes de la bonne gouvernance et qu'il manque également des études d'impact sociaux ainsi qu'environnementaux. Quelle lecture faire de cette proposition? C'est la question au débat ce soir et pour en parler, nous serons avec Justin Mobomi, coordonnateur de la coalition des ONG de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP en sigle. Justin Mobomi, bonsoir.
Bonsoir.
Et Israël Moutala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, analyste économique et politique, professeur Albert Kabasele, docteur en télédétection du climat. Vous êtes aussi expert du climat aux Nations Unies et directeur scientifique à l'Institut géographique du Congo. Vous êtes en ligne, Albert Kabasele, bonsoir.
Bonsoir, messieurs les journalistes.
À tous, bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous le disions tantôt, la coalition des ONG de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle, appelle tous les acteurs de la société à exiger un moratoire sur le projet INGA 3. Le coordonnateur de cette structure explique que ce projet ne respecte pas les principes de la bonne gouvernance et qu'il manque également des études d'impact sociaux et environnementaux. Justin Mobomi est au micro de Paul Matendo dans ce premier extrait.
Un projet de cette envergure-là, on ne peut pas le développer s'il n'y a pas des études d'impact sociaux et environnementaux. L'étude de préfaisabilité qui a été réalisée par ECOM et ADEF France avait conclu qu'il faut 20 études de faisabilité pour réaliser le projet INGA 3. À ce jour, aucune étude n'a été réalisée à notre connaissance. Si ça a été fait, ça sera encore une faute grave parce que manque de transparence. Il faudrait que nous puissions avoir un gouvernement responsable pour que nous puissions discuter un peu de ce projet, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que pour un gouvernement qui mobilise moins de 5 milliards de dollars, faire un projet de 12 milliards, c'est vraiment nous mettre la corde. Donc pour ça, nous, la société civile, nous disons aux pouvoirs publics qui sont là, puisque la situation est ainsi, faisons un moratoire.
Alors, ce sujet est parti avec le débat qui nous réunit ici ce soir. Justin Mobomi, vous êtes coordonnateur de la coalition des ONG de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle. Nous avons entendu votre première explication tout à l'heure en bout de son, mais en réalité, on aimerait avoir plus de détails. Qu'est-ce qui vous dérange vraiment dans ce projet INGA 3?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Le projet INGA 3 est un projet légendaire et gigantesque. Mais ce qui nous dérange, nous partons plutôt de l'histoire de barrages sur les sites d'INGA. Vous vous souvenez quand le président Mobutu décide en 1967 de faire INGA 1 et plus tard, 10 ans après, INGA 2, il contracte une dette de plus de 2 milliards de dollars, laquelle dette va servir à construire des infrastructures connues sous le nom des éléphants blancs. Et parmi ces éléphants blancs, il y a INGA 1 et INGA 2. Vous savez aussi que cette dette-là, pour avoir mal géré ces infrastructures-là, qui n'étaient, certaines même n'ont pas été même achevées, et d'autres, c'est maintenant aujourd'hui qu'on essaye de le mettre en mouvement. Donc, ces infrastructures-là nous ont créé, ont contribué à la dette qui a été, dont une bonne partie a été balayée grâce à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE le 30 juin 2010. Donc, et dans cette dette-là, une bonne partie de la dette vient de la construction de INGA 1 et INGA 2. Alors, qu'est-ce que les générations présentes doivent savoir? Les générations présentes doivent savoir que, par exemple, j'ai souvent l'habitude de donner l'exemple de la bourse d'études. Moi, j'ai eu l'occasion d'étudier avec une bourse d'études. Les enfants aujourd'hui, il y en a, certains étudiants ne savent même pas ce qu'on appelle une bourse d'études. Est-ce qu'ils savent pourquoi ils ne bénéficient plus de bourse d'études, comme ce fut le cas avec nous? Ils ne savent pas. Et pourquoi? Parce que quand la Banque mondiale a demandé au gouvernement, quand le gouvernement Mobutu s'est montré incapable de payer les services de la dette du pays, les institutions financières internationales ont demandé au gouvernement de l'ex-Zaïre de supprimer les avantages sociaux. Et parmi ces avantages, il y a la bourse d'études des étudiants. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les étudiants étudient dans des conditions extrêmement difficiles et ils n'ont pas droit à la bourse, alors que dans un pays normal, des étudiants devaient avoir droit à une bourse.
Et même si cette dette a été apurée depuis.
90% de la dette a été apurée, mais pas totalement. Nous continuons toujours à payer les services de la dette et nous craignons. Donc déjà à partir de l'histoire, nous avons déjà un problème avec ce projet-là. Parce que les gens qui sont en train d'étudier aujourd'hui n'étaient pas concernés. Mais parce que les choses ont été mal gérées, ils sont maintenant victimes d'une dette qui a été contractée il y a plus de 25 ans.
Mais entre-temps, Justin Mobomi, il y a quand même le courant, il y a l'électricité qui nous permet d'avoir des entreprises. Qui a aidé les entreprises, justement, à cette époque de la Deuxième République à exister. General Motors, toutes les entreprises à limiter. Le courant de la RDC, on le sait, est vendu dans un certain nombre de pays limitrophes. Donc le barrage a servi à quelque chose, non?
Non, on ne peut pas dire que le barrage n'a pas servi à quelque chose. Mais le barrage n'a pas donné ce qu'on attendait de ces barrages-là. Vous venez de citer quelques ce qu'on peut considérer comme les apports de deux barrages. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, quand vous dites nous sommes en train de vendre du courant, il faut savoir que la RDC ne vend plus du courant à l'extérieur. Hein? Les seuls courants qu'on voit, c'est des projets transfrontaliers. Par exemple, les Ruzus Idé avec nous, avec le pays des Grands Lacs, et le Mobaye Mbongo avec la Centrafrique. Donc, maintenant, nous devenons plutôt importateurs du courant parce que nous importons plus de 100 MW de la Zambie pour alimenter les localités qui sont à côté de la frontière.
Alors, nous, on a une idée du pourquoi, mais est-ce que, puisque vous en parlez, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, justement, la RDC n'est plus en mesure d'approvisionner l'électricité comme c'était en principe prévu et comme les deux barrages existants, en principe, l'eau lui aurait permis de faire?
Bon, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs raisons, il faut les dire. Mais la raison principale pour nous, c'est la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, ça veut dire que l'argent qui aurait pu servir à l'époque où le pays vendait, exportait le courant à l'extérieur du pays, on aurait pu se servir de ces moyens-là pour faire le maintien de l'infrastructure. Malheureusement, l'argent, vous savez, je crois que l'opinion sait comment est-ce que l'argent a été utilisé et comment est-ce que la Société nationale de l'époque, la SNEL, a été utilisée. Hein, s'il faut le dire, la SNEL a été utilisée comme une vache à lait où pour les manifestations politiques, pour les missions politiques, on devait aller à la SNEL, ponctionner. Et aujourd'hui, la SNEL est très endettée et la SNEL n'est même pas en mesure de produire, en tout cas Inga 1, Inga 2, même pas la moitié de sa capacité installée.
Alors Justin Mobomi, en principe, comme vous le dites, les deux barrages déjà existants auraient dû rapporter beaucoup à la RDC. Vous dénoncez le fait que ces barrages n'apportent pas les bénéfices qu'on aurait pu attendre d'eux, et c'est pour ça que vous dénoncez l'idée de Inga 3.
Oui, c'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord. J'ai dit, c'est pas vraiment un problème de barrage, c'est le problème de la gestion, j'ai dit. J'ai dit qu'il y a plusieurs causes, mais je souligne particulièrement la mauvaise gouvernance parce que pour nous, c'est la cause principale qui a fait que les deux barrages n'ont pas été en mesure de nous donner l'électricité dont on attendait d'eux. Voilà.
Mais imaginons que, on ne sait jamais, les bonnes choses peuvent arriver à tout moment. Imaginons que la bonne gouvernance s'installe du jour au lendemain, on ne sait jamais. Est-ce que ce ne serait pas aussi une bonne idée, en plus des deux barrages déjà existants, qu'on les gère bien, mais qu'il y ait aussi ce barrage Inga 3 et qu'on les gère bien aussi?
Il n'y a pas de problème. Notre seul problème, c'est qu'il faut respecter les normes. Avant de faire une infrastructure de cette envergure-là, il faut faire des études des études de faisabilité, mais aussi comme l'a démontré l'étude de préfaisabilité réalisée par AECOM EDF France. Il faut faire des études complémentaires.
Vous dénoncez justement le problème d'études et tout ça. En quelques mots, où se trouve le problème? Vous dites qu'il n'y a d'études d'impact sociaux ou environnementaux. C'est quoi le problème?
Oui, c'est ça justement le problème. C'est une infrastructure de cette envergure-là, avant d'être érigée, il faut avoir des études pour voir si ça va être viable. Parce que je ne sais pas si, pour des gens qui sont arrivés à Inga, quand vous allez à Inga, Inga 1, Inga 2, vous vous sentez petit parce que ce sont des infrastructures vraiment de grande envergure. Mais figurez-vous que Inga 3 doit faire plus que ça. Hein? Le premier format était de 4800 MW. Maintenant, il faut passer à 10 000 MW. Vous imaginez les machines qui vont être là, si ça trouve un sol qui n'est pas adapté, si ça trouve qu'il n'est pas un sol qui n'est pas solide, si la végétation... Donc, il y a beaucoup d'études qu'il faut mener. J'ai dit que l'étude, dans mon intervention tout à l'heure, que les auditeurs ont suivi, j'ai dit que l'étude de préfaisabilité avait conclu à plus de 20 études complémentaires qu'il faut mener avant d'ériger. Ça.
Merci. Merci Justin Mouboumi. Je reviendrai à vous dans un deuxième partage de la parole. Allons plutôt du côté du professeur Albert Kabasele, docteur en télédétection du climat. Professeur, vous êtes aussi expert du climat aux Nations Unies et directeur scientifique à l'Institut géographique du Congo. Où en est-on aujourd'hui avec ce projet Inga 3? Est-il toujours un projet en cours ou même pas encore commencé?
Oui, j'ai suivi l'interlocuteur de tout à l'heure et les raisons qu'il est en train de donner. D'abord, je m'inscris en faux quand il dit que Inga 1 et 2 est un éléphant blanc. Non, Inga 1 et 2, ce sont des projets qui ont fait la fierté du Congo Zaïre. Et on ne peut pas parler d'éléphant blanc pour Inga, parce que c'est Inga qui a fait la fierté de la Gécamines et des sociétés qui s'étaient installées au Congo Zaïre à l'époque. Donc et là où il a raison, c'est quand il parle de la mauvaise gestion. Donc la gouvernance par rapport à la gestion dans notre pays, ça c'est un problème, c'est vraiment chaotique, parce que l'État congolais n'a pas la chance de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, quand on nomme quelqu'un pour gérer une société comme la SNEL, donc il gère ça comme sa propre boutique. Il ne sait pas que le pays a contracté une dette et cette dette va se reverser sur les générations futures. Et donc, Inga 3 est un projet très bienvenu. Nous attendons ce projet à bras ouverts et il faut qu'il arrive. Le monde entier donne à la RDC la possibilité de produire le courant, non seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique, et pour même d'autres pays transcontinentaux. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas produire le courant et d'arrêter le projet Inga 3. C'est un projet qui est très important, et le monde entier attend ce projet. Et parlons des études d'impact dont mon compatriote vient de parler tout à l'heure. Et les études d'impact, je veux révéler quelque chose. C'est que le fleuve Congo tourne à moyenne de 45 000 mètres cubes d'eau par seconde. Et quand il est en une période d'étiage, il peut descendre même jusqu'à 25 000 mètres cubes d'eau. Mais ça, c'est rare. Et des fois, il monte jusqu'à 70 000 mètres cubes d'eau par seconde. Avec le changement climatique, la tendance est vers une légère baisse. Donc on est dans des 35 à 38 000 mètres cubes d'eau par seconde. Et nous avons le bassin Oubangui qui sert de soutien, de béguille quand le fleuve Congo est en difficulté. Donc nous avons un régime stable. Nous avons un climat stable d'environ 1000 à 2000 mètres cubes d'eau par an de pluviométrie. Donc cela permet à notre fleuve de tourner en plein régime. Et l'électricité, c'est vraiment une des énergies propres est la plus attendue par l'humanité par rapport à la RDC. Donc je ne vois pas le problème pour que ce projet puisse commencer. Et je me félicite parce que mon frère dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un problème avec Inga 3, mais il y a un problème de gestion. Donc on ne peut pas déclarer un moratoire parce qu'il y a un problème de gestion. Il faut qu'on trouve des solutions à ces problèmes de gestion au lieu qu'on puisse arrêter le projet Inga 3.
Albert Kabasele, Justin Mobomi n'a quand même pas dit qu'il faut arrêter totalement le projet ou qu'il faut il faut le faire disparaître totalement. Il demande un moratoire, c'est-à-dire un temps probablement pour mieux réfléchir, pour bien analyser les choses. Et puis il évoque quand même deux problèmes, au-delà des problèmes d'études pour lesquels vous n'êtes pas d'accord, même si lui il a aussi développé ses arguments, mais il parle quand même du budget à mettre là-dedans. La RDC arrive à peine à mobiliser 5 milliards de budget pour plus de 80 millions d'habitants. Le projet Inga 3 demande plusieurs milliards de dollars, une vingtaine à peu près. Pensez-vous que c'est bien pensé de contracter un tel budget pour ce projet? Et puis, d'où viendra le financement si le pays lui-même n'a même pas le budget, la moitié du budget demandé pour ce projet-là?
Mais on peut faire, monsieur le journaliste, le partenariat public-privé. Et je vous informe que on ne doit pas s'arrêter au projet Inga 3. On doit aller jusqu'au projet même Inga 8, parce que la RDC a le potentiel de produire jusqu'à 100 000 mégawatts. Et là, on produit moins de 5 000 mégawatts. Et la population a augmenté terriblement. Et nous devons vendre notre courant. Et là, c'est ce que la RDC a du plus précieux quand nous refusons qu'on puisse transférer Ubangi. C'est en fonction de ces projets, ainsi de suite. Je suis d'accord parce que les études d'impact doivent être réalisées. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un grand projet sans étude d'impact. Je suis aussi d'accord qu'il y ait ce qu'on appelle l'assainissement au niveau de la gestion dans de gros projets comme celui-là, avec de grandes sociétés comme SNEL, Régie des eaux, j'en passe. Et je suis aussi d'accord que les ONG réagir pour attirer l'attention de l'État quant à la gestion de la chose publique. Et ça, c'est avec raison. Mais je me dis qu'on ne prenne pas beaucoup de temps. On n'aille pas de moratoire en moratoire ou d'hésitation en hésitation. Le monde ne nous attend pas. Quand nous faisons du retard, alors on vient pour nous ravir nos biens. Regardez, La question de l'eau, c'est depuis longtemps que Kadhafi avait posé cette question de l'eau, mais la RDC a pris du retard et le leadership est allé ailleurs. Et la guerre de l'eau peut commencer parce que souvent on hésite. Regardez la question de l'exploitation des gaz sur le lac Kivu. La RDC a hésité des études et le Rwanda a pris le leadership.
Professeur Kabasele,
regardez la question de la forêt. La RDC a pris du retard. Et Congo-Brazza a pris le leadership. Parce que si nous ne prenons pas encore le leadership pour produire l'électricité d'Inga, le monde ne nous attendra pas.
Professeur Kabasele, je retiens, à côté des réserves que vous venez de mettre, que vous avez répété plusieurs fois le mot « je suis d'accord », et plusieurs fois, vous semblez être très d'accord avec les arguments de Justin Mobomi, mais vous êtes aussi un expert du climat. Quelle analyse faites-vous quand on sait que Inga 1 et Inga 2 sont des vrais mastodontes sur ce site-là, alors qu'ils ne produisent tous les deux que 2000 mégawatts cumulés, et peut-être moins, hein, alors que Inga 3 viendra produire 5 fois plus la production actuelle. Est-ce qu'il n'y a pas des répercussions climatiques ou sociaux dans les populations?
En tant que physicien, je ne vois pas un grand problème. Un grand problème quand Inga 3 va tourner, même jusqu'à produire 10 mégawatts. Je vous informe que si Inga 1 et Inga 2 produisent moins de 4 mégawatts, c'est parce qu'il n'y a pas de travaux. Il n'y a pas de travaux d'entretien depuis que l'ouvrage a été réalisé. Il y a l'ensablement, ainsi de suite. Il y a le vieillissement des câbles, des turbines. Il y a le non-curage du bassin.
Donc voilà les problèmes techniques qui se posent là-bas. Et ce sont ces problèmes qui n'ont pas trouvé de solution parce que la société SNEL, depuis ce temps-là, a été mal gérée jusqu'aujourd'hui.
Merci. Merci.
Jusqu'aujourd'hui.
Merci, professeur.
Aujourd'hui.
Merci, professeur. Pas, nous revenons à vous.
Sur le problème, ça ne va pas modifier la pluviométrie. Ça ne va pas faire que le débit du fleuve puisse changer.
Mais donc, Albert Kabassélé,
je vous... des problèmes environnementaux assez graves.
Albert Kabassélé, je vous remercie. Nous reviendrons à vous pour un deuxième partage de la parole. Israël Moutala, journaliste, analyste économique et politique. Vous avez écouté vos deux premiers co-débatteurs. Votre commentaire sur leur analyse respective.
Bon, moi, je pense que dans leurs commentaires, dans leurs propos, il y a des choses extrêmement positives et encourageantes. Mais moi, j'ai l'impression que avec le projet Inga, nous tournons en rond. C'est ça la question. Donc la question qui est posée par la société civile est une question pertinente. Mmh. Tout le monde est d'accord sur l'opportunité de lancer les travaux sur Grand Inga. Il y a beaucoup de retombées économiques, financières, en termes de développement. Parce que nous partons d'abord du postulat selon lequel il n'y a pas de développement sans énergie. Donc il faut que dans une économie, l'énergie soit produite en quantité suffisante à un faible coût pour que les ménages et les opérateurs économiques puissent s'en procurer et développer leurs activités. Donc c'est un postulat de base, on ne peut pas se développer sans énergie. Donc, dès lors qu'on est d'accord sur ce postulat de base et qu'on est aussi d'accord sur le fait que nous sommes en déficit criant énergétique, donc le taux de desserte en électricité en Afrique subsaharienne est autour de 30%. Ici, chez nous, nous sommes autour de 9%. Et je pense même pas que nous soyons autour de 9%. Je pense que nous sommes autour de 7%. Parce que la population a cru et l'offre en termes d'énergie a beaucoup baissé. Parce qu'on a parlé de Inga tout à l'heure. Inga 1 et Inga 2, c'est autour de 1800 mégawatts de capacité installée. Mais sur ces capacités installées, je crois qu'on est autour de 1000 à 1200, donc il faut qu'on revoie. Donc on est toujours en déficit. Et donc même la ligne Inga de production de courant qu'on a construite avec l'aide de l'Union Européenne, elle ne peut pas transporter une énergie qui n'existe pas. Il faut d'abord la produire. Donc on est d'accord que Inga 3 est un très bon projet. Il a commencé à 4800 mégawatts, on l'a un peu reformulé à 12 000 mégawatts, donc on a un peu corrigé le projet, on est d'accord. Mais là où on n'est pas d'accord et que la société civile a le droit de lever le ton, c'est la méthode. Comment arrive-t-on à cette production? Est-ce qu'on respecte le bon de bonne gestion de transparence? Non, c'est là que ça pose un problème. Il fallait une loi qui détermine le rôle des uns et des autres. Comment on fait appel à des partenaires privés? Comment ils vont entrer dans cet actionnariat? Comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème de corruption? Comment on fait que nous ne puissions pas contracter justement une dette importante? Le montage financier s'est fait comment? Comment la concession qu'on va donner justement aux constructeurs, c'est pour combien de temps? Comment on rembourse? Il y a des questions importantes. La question environnementale, la question sociale, ça veut dire les villages tout autour et tout ça. Il y a des questions importantes qui dépasse le cadre de l'ADPI, qui est une petite structure rattachée à la présidence de la République. Non, la gestion du pays est confiée au gouvernement et non au président de la République. Mmh. La définition de la politique gouvernementale s'est faite entre le Premier ministre et le président de la République. Mais la conduite des affaires publiques s'est faite au quotidien par le gouvernement. Et donc, il est malsain de confier un tel projet à une structure comme l'ADPI. Donc, voilà le premier problème. Il fallait une loi qui définissent les rôles des uns et des autres. Société civile, fournisseurs et tout ça, qu'on fasse un cadre. On met la transparence par rapport à ça.
Alors, la CORAP n'a peut-être pas mentionné les aspects que vous signalez, mais est-ce que cela n'ajoute-t-il pas de nouveaux arguments à la CORAP pour justement obtenir un moratoire et réfléchir avant de lancer ce projet finalement qui n'est pas mauvais en soi?
Écoutez, le problème du moratoire est un problème qui se pose. Le moratoire, c'est-à-dire on postpose le projet. C'est-à-dire le projet continue. Mais on corrige le projet parce que ça ne sert à rien d'avancer avec un projet qui a déjà des défauts au départ. On va pas se précipiter. On va se précipiter pourquoi? Parce qu'on va dans un... La Banque mondiale s'est retirée. Parce que les questions qu'a soulevé le CORAP sont des questions fondamentales. Il y a des études de préfaisabilité financé par la Banque mondiale et la BAD dans une certaine mesure. À ces études, là-bas, il fallait mener des études de préfaisabilité pour savoir l'impact environnemental, l'impact social, l'impact économique. Il y a des petites études qu'il fallait. Et après, maintenant, ces études là-bas, vous faites quoi? Vous lancez les appels d'offres.
On a enjambé
ces études intermédiaires, on a fait les appels d'offres.
N'avez-vous pas l'impression que, justement, dans cette méthodologie, ne soupçonnez-vous pas que, justement, un groupe de gens ait voulu démarrer ce projet avec éventuellement la possibilité de recevoir les financements et de se servir et de laisser le pays avec une dette probablement colossale?
Oui, mais c'est toutes ces questions-là. Justement, il y a une question de méthode. Donc, qu'on sache, par exemple, que le montage financier, et voilà, comment on rembourse, on va... Bref, pour que nous... Il y a beaucoup... C'est des questions importantes. Voilà pourquoi est-ce qu'il y avait une loi. Il y avait même un projet de loi que Matata avait fait, qui n'avait pas été discuté. Donc, c'est cette question là-bas. C'est une question. Inga, comme on l'a dit ici, c'est un projet colossal qui doit engager toute la nation. Donc, il y a des bonnes politiques... qu'une loi soit discutée au Parlement qui engage tout le monde, que les règles de jeu soient claires là-dessus. Donc, on ne faut pas que l'État ici, aujourd'hui, ceux qui incarnent l'État, se cachent derrière une pseudo-souveraineté pour faire n'importe quoi dans ce dossier. Donc, le projet mérite d'être recadré. Il faut que les règles de bonne gouvernance et de bonne gestion soient appliquées, parce que l'endettement, et si le projet patine, c'est nous qui allons en souffrir. Donc aujourd'hui, le déficit, le projet a pris du retard. Le coup d'envoi devait être lancé en 2017, il ne l'a pas encore été. Il devait être livré, le premier méga devait être livré en 2021, on a reporté à 2025. Donc vous voyez qu'on tâtonne. Monsieur Kapanji lui-même a dit que le consortium chino-espagnol à qui il a donné le marché devait faire une offre commune, c'était en septembre de l'année passée. Jusqu'à aujourd'hui, on attend. On prend du retard. Tout simplement pourquoi? Parce que la méthode n'a pas été bien définie. La méthode n'obéit pas aux règles de bonne gestion et de bonne gouvernance. Et je pense qu'à ce titre-là, la société civile et Conorap a parfaitement raison.
Justin Mobomi, nos auditeurs ont abondamment réagi à cette actualité. Vous avez sans doute des choses à rebondir. Mais avant de prendre la parole cette fois-ci et de dire ce qui reste encore dans votre sac d'argumentation, nous allons écouter ce commentaire de Patient Biamungu.
Patient Biamungu Rukuba depuis la ville province de Kinshasa. Personnellement, je désapprouve cette démarche de la CORAP, car non seulement elle peut enfreiner les cours normales d'exécution de ce projet déjà en cours, elle pose aussi un problème sans lui proposer des pistes de solutions et c'est dangereux que ce qu'il dénonce. Tous savons que la bonne gouvernance n'est pas au rendez-vous dans ce pays, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner tout pour rien. Plutôt, nous devons capitaliser les oiseaux rares tant soit peu de ce système, car vaut mieux un dieu que deux tueurs, dit-on, et aucune œuvre humaine n'est pas parfaite. Je crois aussi que la société civile doit faire attention à ces déclarations fantaisistes de nature à décourager les restes de bonne volonté des gouvernements à qui ils attribuent tous les maux du monde.
Alors, Justin Mobomi, patient, attend les propositions concrètes que vous pourrez apporter au lieu de proposer votre moratoire. Mais il y a Josué qui ajoute aussi, je le cite, « Je pense que la CORAP devrait demander d'être associée aux études en vue d'apporter son expertise afin de rendre le projet profitable à la population. » Exiger un moratoire sans rien proposer, un peu comme la réclamation de patients tout à l'heure, ne fera que retarder les travaux.
Merci beaucoup pour toutes ces questions qui dénotent de l'intérêt de la population autour de cette question. Ce que je constate malheureusement, c'est que la population n'est pas informée. J'attends par exemple le professeur qui dit c'est facile à faire, la solution c'est le partenariat public-privé. C'est justement là qu'il faut faire très attention. Je rappelle en passant à notre intervenant de Kinshasa ici qui dit que nous faisons des déclarations fantaisistes, de se réserver de dire comme ça, parce que nous y sommes, parce que nous connaissons les dossiers, nous y travaillons, et les responsables publics qui sont sur la question nous connaissent, parce qu'ils savent que nous sommes sur la question.
Mais lui, comme Josué, estime ou espère de vous des propositions.
Oui, Nous avons beaucoup de propositions. Ceux qui sont dans les domaines, ils savent. Nous ne faisons pas des déclarations fantaisistes, comme il dit. Je voudrais d'abord revenir sur le professeur qui a parlé de PPP, partenariat public-privé. Nous, les Congolais, nous embrassons trop de concepts comme ça, partenariat public-privé. Aujourd'hui, c'est devenu une vérité unanimement partagée dans ces pays que les partenariats public-privé, c'est ça la panacée pour trouver des solutions. Est-ce qu'on sait que là où les partenariats public-privé a commencé, en Grande-Bretagne et plus tard en France, vous savez que le président Hollande a suspendu tous les projets de PPP parce que ça a engendré une dette de 41 milliards d'euros à la France. C'est pourquoi, durant tout son mandat, il a suspendu tous les projets de PPP. Et pourtant, ça a commencé d'abord en Angleterre et puis chez eux. En Angleterre, la même chose. Les gens savent, connaissent ça. Les gens parlent de partenariat public-privé. On leur dit non, on va vous construire des infrastructures, clairement, on vous remet.
L'opinion aimerait savoir un peu, puisque vous évoquez la question, qu'est-ce qui amène cette dette des PPP?
Oui, la dette des PPP, c'est le fait qu'une entreprise vous construit une infrastructure. Vous devez payer les loyers pendant autant d'années. Chez nous, ici, on ne sait pas, 25 ans, 30 ans, même 50 ans. Et vous devez rembourser la dette. Si l'entreprise, le pays ne paye pas, c'est la population qui va payer ça. Vous voyez? Donc, aller présenter au public les partenariats publics-privés comme si c'était une panacée, c'est vraiment très grave. Nous, la société civile, nous sommes très regardants et nous attendons que cette loi sur les PPP soit promulguée pour que nous puissions donner notre réplique. Nous demandons aux experts qui s'expriment sur la question de le faire avec nuance pour montrer à la population que les PPP n'est pas une panacée. L'autre chose que j'ai entendue ici, c'est de dire que le projet est bon. Le projet Inga 3, quand on dit il est bon, c'est en vertu de quoi? Un projet, il est bon quand il profite au pays. Est-ce que le projet là, d'abord le format que nous avions de 4800 MW, on dit 2500 allait être vendu à l'Afrique du Sud. 2500. Sur 4800, 2500, donc plus de la moitié vendu à l'Afrique du Sud. 1300 pour l'industrie minière. La population ici allait se retrouver à travers la SNEL
avec des problèmes de délestage.
Avec les étiages, donc moins de 600 MW.
Professeur Albert Kabasiele, à votre tour, je vous invite à bien écouter ces réflexions de notre auditeur Corneille Moubabingé.
Corneille Moubabingé à Kananga. À quoi sert le projet qui ne sert à rien à la population congolaise? Nous avons Inga 1 et Inga 2 qui passent même à côté de certaines villes telles que Kananga et Mbujimayi sans alimenter ces dernières. Cette démarche des ONG est bonne car les potentialités de la RDC ne peuvent pas toujours être utilisées au profit des autres pays au moment où les Congolais vivent misérablement.
Alors, professeur, Justin Mobomi disait tout à l'heure que la population ne profitait déjà pas des deux premiers Inga et que même avec Inga 3, la majorité de l'électricité produite allait déjà être vendue à l'étranger. C'est plus ou moins l'idée de Junior Bompongo qui dit, je le cite, la fourniture en électricité devient de facto un casse-tête. Le citoyen lambda a du mal à passer une journée complète sans qu'il n'y ait une rupture. À quoi sert alors ce projet si le vrai bénéficiaire continue à payer le prix, pas de l'électricité, mais de l'obscurité?
Oui, la société civile, à travers mon compatriote, a raison quand elle dénonce la mégestion. Là, je suis d'accord. Parce que moi, je ne peux pas, à ce niveau, dire que notre population continue à supporter une dette pour laquelle les gens risquent de se remplir des poches. Et un jour, quand ils ne seront pas aux affaires, nos enfants vont devoir payer. Je ne serai pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord. Donc, il a raison. Et je suis content qu'au moins une ONG hausse les tons pour que le gouvernement prenne ses responsabilités. Les députés nous écoutent. Ils doivent se saisir de ces dossiers et réclamer d'y voir clair. Et ça, c'est déjà très bon. C'est déjà très bon. Quand je parle de partenariat public-privé, et c'est le fait aussi de pouvoir même faire l'appel des fonds, même aux Congolais qui ont des moyens. Pas nécessairement se tourner vers le dehors. Donc on peut investir même à partir des Congolais qui ont l'argent, qui peuvent investir dans ces projets. Je pense qu'il y en a. Et quand on va bien ficeler le contrat, et quand on va bien le regarder de manière transparente, et je pense que c'est quelque chose de bon pour la République. Pour ceux qui disent que Inga 1 et Inga 2 produisent moins de 2000 mégawatts et ça ne profite pas à la population, je tiens à souligner que la population a augmenté entre-temps. Quand Inga 1 et 2 ont été construits, on était moins de 20 millions, 30 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est plus de 70 millions d'habitants. Les besoins ont augmenté. Et on n'a que ces deux Inga-là, qui sont d'ailleurs vétustes, parce qu'il y a eu une gestion. Donc c'est ça le problème. Mmh. Et aujourd'hui, il faut savoir que les concentrateurs, les transformateurs, donc les installations de transformation pour quitter la très haute tension à la basse tension, qui peut être servie à la population, ces installations coûtent énormément cher. Nous misons sur d'autres cours d'eau pour faire micro-barrages. Les micro-barrages restent une solution. Donc on ne peut pas aujourd'hui penser qu'en prenant la ligne très haute tension, en installant des transformateurs, on va servir le courant à la population.
Professeur Albert Kabasiele, merci. Vous aurez une troisième prise de parole pour dire votre mot de la fin. Israël Moutala, pour vous, cette réflexion de Chouk Mouigoura.
Chouk Mouigoura, en Colombie, de la province d'Iloalaba. Sans décourager la CORAP, je pense que les rappels à exiger un moratoire sur le projet Inga 3 n'aboutira pas à un résultat favorable, parce que s'adresser à un gouvernement qui a instauré la mauvaise gouvernance compilée de la gestion des affaires publiques, c'est comme s'ils se sont trompés d'adresse. Le principe de la bonne gouvernance était d'application stricte dans ce pays, où les projets du gouvernement, toutes les réformes initiées par le gouvernement, allaient privilégier tout d'abord le bien-être de la population et de l'environnement dans lequel elle vit. Au lieu de s'atteler seulement sur les projets Inga 3, je pense que la CORAP devrait plutôt orienter leur démarche à obtenir un changement positif au sommet de l'État, un renouvellement positif des acteurs politiques et animateurs des institutions publiques, car c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème qui freine le développement de ce pays.
Israël Moutala, visiblement la population qui souffre du délestage, a tout de suite eu l'impression que sans Inga 3, c'est le délestage qui va s'empirer et se révolte contre la proposition de la CORAP.
Notre auditeur, notre compatriote de Colosie l'a dit dans ses termes à lui, qu'il y a un problème de gouvernance. Donc, c'est pas un problème isolé, c'est un problème général de gouvernance. Donc, il a été assez ironique, assez vif, en disant que la CORAP s'est trompée d'adresse pour dire que elle prêchait dans le désert. Non, moi je pense que la CORAP doit demeurer combative. Ne doit pas désespérer, mais elle a besoin justement de bonne volonté, venir l'appuyer dans ce combat, parce que c'est le combat, c'est une structure qui est le porte-voix de plusieurs d'entre nous. Bien que tout ce que dit la Corne arabe, on peut pas ne pas être d'accord sur tout ce qu'elle dit, voilà, notamment sur le dispatching de l'énergie. Quand on dit 2500 mégawatts à l'Afrique du Sud, c'est pas pour le plaisir que le gouvernement le fait, c'est pour viabiliser le projet. Vous voyez tout de même que est-ce que le pouvoir d'achat du peuple congolais, il est faible. On n'a pas la capacité justement, avec les factures domestiques justement, de viabiliser ce projet. Et donc en vendant une partie à l'Afrique du Sud.
Mais est-ce qu'elle n'est pas trop importante?
Non, mais le problème, c'est que d'abord, il faut d'abord qu'on évalue. C'est d'abord ici à Kinshasa, et puis Lubumbashi, il y a les mini, il y a les grands centres, comme on l'a dit. Donc ça veut dire que la politique gouvernementale d'accès à l'énergie, c'est un mixte. Où il y a de l'énergie hydroélectrique, de grandes structures, de microstructures, de pico-barrages, comme on dit, du solaire, de l'éolienne. C'est un mixte énergétique qu'il faut constituer en termes de politique. Mais c'est cette politique-là, il faut des énergies renouvelables. Il faut une politique et il y a chaque segment. Mais ici, d'abord, c'est un grand projet qui doit rapporter des ressources. Parce que si vous fournissez de l'énergie aux entreprises minières, vous accroissez la production de cuivre, par exemple, vous avez de retombées en termes de recettes fiscales, ces mêmes retombées vont améliorer le quotidien de la population. Il y aura plus de moyens de l'État, plus de routes, plus d'hôpitaux, s'il y a la bonne gouvernance.
Donc, mais voilà. Israël Moutala,
donc c'est une question importante.
Puisque la RDC a des vastes étendues de territoire et qu'on connaît une autre source d'énergie propre, le soleil, les lions n'ont pas encore discuté parce qu'il y a du bruit et tout ça. On peut discuter cet aspect de l'éolienne, mais le soleil qui est quasi gratuit pour la République démocratique du Congo, pourquoi les Africains et la République démocratique du Congo de manière générale n'exploitent pas cet autre potentiel qui pourrait justement lui permettre de vendre un peu plus et d'enflouer ses caisses?
Je suis parfaitement d'accord. Mais il s'agit encore une fois là-bas de la politique. La coopération néerlandaise avait fait un travail génial avec l'Atlas des énergies. Je pense que M. Mobomi connaît. On a fait une cartographie de toutes les potentialités énergétiques en RDC. Donc maintenant, il faut du financement, il faut des politiques publiques volontaristes, il faut de bons managers publics, pas seulement au niveau national, au niveau local aussi, dans une ville, dans une commune, donc tout ça. Mais quand on s'amuse avec l'argent de l'État, avec les impôts, ou quand on s'amuse que quand on est dirigeant, c'est s'enrichir, c'est acheter des villas, on n'est pas au service, c'est avoir de gros cylindrés, bon, enfin, on ne comprend pas le rôle d'être au service de la communauté. On ne peut pas, il y a un problème. Et j'aimerais encore terminer sur le partenariat public-privé. Bon, on ne recourt pas par ça, par le plaisir. Donc si cet argent était disponible en RDC, on serait allé nous-mêmes. C'est parce que d'abord, on n'a pas l'argent. Nous avons un budget en ressources propres de 4 milliards de dollars. Et donc ce projet Inga 3, ça vous vaut 12 milliards de dollars. Où va-t-on trouver les 12 milliards de dollars? Le professeur, il est gentil en disant qu'on peut s'associer aux Congolais. Quels sont ces Congolais? Notre PIB, ça veut dire la richesse produite par tous les Congolais, elle est de 40 milliards de dollars. Le projet lui-même vaut le 1/3 de ce budget. Il n'y a aucun Congolais sérieux qui peut mettre de l'argent là-bas. Et donc, notre capacité, c'est la bonne gouvernance, nous ne l'avons pas. Donc la RDC en tant qu'État n'est pas en mesure elle-même de lever des fonds sur les marchés boursiers et donc on n'a pas la capacité financière, on n'a pas la capacité technique et tout ça c'est compliqué. Tout revient à la question de la gestion.
Alors en quelques secondes,
j'aimerais terminer. Oui. Parce que les consortiums à qui on a remis ce marché, s'ils vont sur les marchés boursiers, ils vont voir la RDC est à problème. Les taux d'intérêt sur les marchés peuvent être de 6%. Ils vont lever à 4% ou au taux Libor. Ils viendront avec cet argent. Ils vont nous le prêter à 11% ou à 10% ou à 12% comme le font les miniers. Ça sera un endettement.
Alors, en quelques secondes, quel serait le juste milieu entre ceux qui craignent le moratoire ou qu'on suspende son projet et ceux qui en veulent?
Bon, le moratoire, d'abord, ça veut dire quoi? Ce n'est pas on abandonne le projet. Le moratoire, c'est vous dit, on fait un arrêt, un stop. On requalifie le projet pour repartir sur des bonnes bases. Le moratoire, ici, les gens ne doivent pas confondre que le moratoire, ce n'est pas rejeter le projet. Non. Ici, quand on dit ravitaillement, ça veut dire qu'on suspend momentanément pour requalifier le projet au bénéfice du grand nombre, au bénéfice de l'environnement, au bénéfice de populations riveraines, au bénéfice de notre économie. C'est ce que ça signifie, tout simplement, que les gens ne s'affolent pas avec le terme moratoire.
Merci beaucoup, Israël Moutala. Professeur Kabasele, en 20 secondes, quel est le juste milieu entre ceux qui craignent un moratoire ou même un rejet total de ce projet et ceux qui en veulent?
Je pense que l'action de la société civile avec Mobomi est justifiée. Mais je crains fort que ça débouche sur un full stop du projet, parce qu'on sait comment ça se stoppe. Donc je voudrais qu'il change de stratégie pour ramener le gouvernement vers la table des négociations, parce que ce projet va nous amener de l'argent frais et que peut-être notre budget, qui est en train d'être décrié, peut augmenter. Et j'appelle aussi le gouvernement à écouter la société civile et qui se bat pour la population et de saisir cette occasion pour pouvoir assainir la gestion de ce projet. Et parce que on ne peut pas aller de gros projets en gros projets.
Merci professeur. Justin Mobomi.
Donc on commence des projets.
La parole est à vous en quelques secondes, Justin Mobomi. Comment comptez-vous faire passer votre idée du moratoire?
Nous sommes en train d'expliquer à qui veut nous entendre que pour nous, le projet tel qu'il est maintenant, il est beaucoup plus dangereux pour les pays qui bénéficient. C'est pourquoi nous exigeons ces moratoires-là. Pour nous, il faut qu'on fasse les moratoires pour que nous puissions réfléchir très bien sur comment nous allons faire ce projet si c'est nécessaire.
Merci Alain pour cette émission. Alain Goy,
à la technique, Alain Irung à la réalisation, Pelikipe Lamondo à la supervision, Dudu Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais pour ce soir, c'est fini. Au revoir et à bientôt.